parole ce matin, quelques instants. Et je voudrais aller dans un livre de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, que je vous encourage de lire. Une histoire extraordinaire comme seule la Bible en contient, en renferme, où on voit Dieu qui est capable de changer le mal en bien, de transformer des situations mal embarquées. Et des fois, il y en a dans nos vies des situations mal embarquées. Et puis Dieu est capable de remettre tout ça, de remettre de l'ordre dans tout ça. Alors de quoi je veux parler ce matin? Je voudrais qu'on aille dans le livre de Ruth. L'histoire de Ruth, ça vous dit quelque chose? Ruth, la Moabite. Une histoire extraordinaire. Hein, où vraiment Dieu a béni cette femme d'une manière inimaginable, extraordinaire. Dans cette histoire, il y a tout le plan de Dieu. Hein, on va voir un petit peu. Hein, je voudrais surtout ce matin m'arrêter sur un conseil qui est dans ce livre et qui est toujours d'actualité pour nous encore ce matin. Alors, je fais un bref récapitulatif au chapitre 1er, parce que ce n'est pas celui-là qui va nous intéresser, on va aller au chapitre 2. Mais pour comprendre le chapitre 2, il faut récapituler, le chapitre 1er. Vous rappelez qu'à la base, le livre de Ruth commence avec un couple, Naomi et Élimélec, qui quittent Bethléem parce qu'il y a une famine. Et puis ils s'en vont au pays de Moab, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Et puis là, alors qu'ils pensaient améliorer leur situation, c'est pire. La catastrophe est là pour eux. La Bible nous dit que le mari de Naomi, Élimélec, est mort. On ne sait pas comment, mais il est décédé. Et même ses deux enfants sont décédés, ses deux fils. Et elle va se retrouver avec ses deux belles filles. Ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et la Bible nous dit que toutes les deux, au départ, sont disposées à rentrer à Bethléem avec leur belle-mère. Toutes les deux pleurent. Vous voyez ? Mais il n'y en a qu'une qui va rester déterminée, qui va rentrer avec sa belle-mère à Bethléem. Comme quoi, il y a déjà là un premier enseignement. L'autre belle-fille, elle a pleuré, elle a versé des larmes, mais elle est restée au pays de Moab. Comme quoi, l'évangile, ce n'est pas une histoire que d'émotion. Il faut plus que de l'émotion. Vous voyez ? Bien sûr, on est des êtres émotifs, on a été créés avec des émotions, mais il faut plus que ça. Il faut prendre une décision. Il faut faire des choix à un moment donné. Peut-être ce matin, tu as un choix à faire pour le Seigneur. Là où tu en es, peut-être tu as besoin d'aller plus loin. Alors j'aimerais t'encourager à être déterminé et peut-être ce matin, si ce n'est pas fait, à prendre une position pour le Seigneur, à lui donner ton cœur. Voyez ? Et donc c'est ce que Ruth va faire. Elle va rentrer à Bethléem avec sa belle-mère. Voyez ? Sachant pas trop ce qui allait lui arriver. Voyez ? Et c'est là qu'on commence l'histoire au chapitre 2, les versets 1er. On va lire les 10 premiers versets. Il est dit ceci, donc elles sont rentrées toutes les deux, Naomi et Ruth, la Moabite. Il nous a dit ceci, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Il faut comprendre qu'à cette époque-là, la loi stipulait que quand les moissonneurs étaient dans les champs, moissonner et laisser quelques épis traîner derrière, il ne fallait pas retourner aller les chercher, il fallait les laisser pour ceux qui n'avaient rien. Les veuves, etc., ou les misérables, c'était comme ça. C'est pour ça qu'elle dit ça. Je vais aller glaner dans les champs derrière les moissonneurs et ceux qui laisseront traîner, je le prendrai. Voyez ? Elle lui répondit, « Va ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous », et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse ». Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ? Amen. Amen. Voilà. Ce qu'il faut bien réaliser ici, faut bien réaliser ici, c'est que ce Boaz, qui était un parent de Naomi, hein, c'est un type de Christ. C'est une image de Jésus, cet homme. Déjà par la signification de son nom, en lui est la force. Et c'est vrai que quand on pense à Jésus, on peut dire « en lui est la force ». Mais également, vous avez remarqué qu'il nous est dit que c'était un homme puissant et riche. C'est l'image de Jésus. Voyez, cet homme, il était aussi de Bethléem, c'est-à-dire là où aidait Jésus. Voyez, donc, ce Boaz, c'est un petit peu l'image de Jésus. Quant à Ruth, la Moabite, elle est une image de ce que, quelque part, nous sommes devenus chacun d'entre nous, c'est-à-dire des rachetés par grâce. Ruth, c'était une étrangère. Elle appartenait pas au peuple de Dieu, voyez. Et pourtant, elle va être comme rachetée. D'ailleurs, elle comprend pas la grâce qu'elle reçoit. Verset 10, vous avez remarqué ce qu'elle dit. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Et voyez, ça, c'est l'image de chacun d'entre nous. À cause de notre péché, nous étions des étrangers aux choses de Dieu. Et pourtant, un jour, Dieu nous a fait grâce. Voyez, nous étions comme exclus des promesses de Dieu, exclus des bénédictions de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. Voyez, donc dans cette histoire du livre de Ruth, vous avez tout le plan de Dieu. Le Seigneur qui vient racheter des étrangers, des gens qui quelque part ne lui appartenaient pas, ils viennent les sauver, ils viennent les racheter et ils reçoivent une grâce extraordinaire. Alléluia. Mais ce qui m'interpelle, et c'est là-dessus que je voudrais insister quelques instants, ce qui m'interpelle ce matin, c'est ce conseil que vous avez au verset 8. Quand Boaz, il va se rendre compte que cette jeune femme est là, il va demander qui c'est. Déjà, vous avez remarqué, c'est quand même assez intéressant de réaliser qu'elle s'est retrouvée dans le bon champ. Verset 2. Elle s'est retrouvée dans le bon champ. Même le verset 3 dit, « Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz. » Elle aurait pu se retrouver ailleurs, mais elle s'est retrouvée dans le bon champ. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse en disant que je crois vraiment que si on a un cœur droit, intègre, Dieu nous dirige. Si on, vraiment on a un cœur qui veut faire les choses bien, un cœur qui veut vraiment faire les choses bien, Dieu nous dirige. Si on est un peu tortueux, si on est un peu, voyez, un peu caméléon, voyez, Dieu peut pas nous diriger. Peut pas. Si on est un peu, voyez, non, mais je crois que vraiment quand on a un cœur honnête, je ne dis pas qu'on est parfait, je ne dis pas qu'on ne se trompe jamais, mais si on a un cœur vrai, Dieu nous dirige. Et cette femme, elle avait un cœur vrai. Et là, il nous a dit, il se trouva par bonheur, peut-être certains diraient, oh, le hasard fait bien les choses. Non, ce n'était pas le hasard, c'est Dieu qui a dirigé les choses. Je crois vraiment que quand vraiment on veut être droit, on veut être intègre, Dieu nous dirige. Et donc, cette femme, elle se retrouve dans le bon champ, et Boaz va dire ceci au verset 8, Il va donner ce conseil, et ce conseil, il est hyper important. Ce conseil, il est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je voudrais le laisser sur chacun de notre cœur. Bien sûr, le contexte a changé, mais le principe, il demeure le même. Il va lui dire, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et verset 9, il y a une insistance, regarde où l'on moissonne dans le champ. Vous voyez ? Dans le champ. Ce conseil-là, il est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Déjà, première chose, ne t'éloigne pas d'ici. Je crois que c'est important de réaliser qu'il y a des éloignements qui nous seront toujours préjudiciables. Toujours. Rappelez-vous le fils prodigue, il est parti où ça? Pour un pays très éloigné. Et on sait ce que ça lui en a coûté. On sait que ça, pour lui, ça a été une galère pas possible jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, éloignement. On se souvient de cette parole de Jésus qui va s'adresser à ses disciples dans le livre des Actes au chapitre 1er, où il va leur recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voyez, il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Vous imaginez s'ils étaient partis sans avoir reçu le Saint-Esprit, sans avoir été remplis du Saint-Esprit, sans la Pentecôte finalement. Mais ils auront manqué une dimension, voyez. Ne vous éloignez pas, voyez, il y a des éloignements qui nous seront toujours préjudiciables. Vous noterez peut-être certaines notes, mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 38, c'est juste après le début de l'histoire de Joseph, qui est vendu par ses frères. Et au chapitre 38 de la Genèse, ça commence de cette façon, Judas, un des frères de Joseph, s'éloigna de ses frères. Et vous lirez la suite, ça a été une catastrophe. Vous lirez la suite de l'histoire. ça a été une catastrophe. Donc il y a des éloignements dans la marche avec Dieu qui nous seront toujours, toujours préjudiciables. Voyez. Maintenant, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, permettez-moi de parler de ce chant-là. Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ça veut dire que des champs, c'est pas ce qui manquait autour. Hein. Il y en avait tout un tas. Peut-être certainement, humainement parlant, visuellement parlant, il y en avait peut-être des plus beaux que celui de Boaz, plus grands que celui de Boaz, en apparence. Peut-être plus fournis que celui de Boaz, je ne sais pas. Voyez. Mais pourtant, il lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Vous connaissez le célèbre adage qui dit que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Eh oui, mais c'est valable pour tout. Hein. Le patron d'à côté, il est toujours plus gentil. Le pasteur d'à côté, il est toujours plus sympa. Ah, il comprend mieux. Ah, il est gentil, il est sympa. Lui, il nous comprend, lui. C'est le lui qui est important. Et lui, jusqu'au jour où le lui il vient dans l'église là, on se dit, ouh, ah, voyez, etc., etc. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, vous voyez. Autrement dit, Boaz, il lui dit, bon, écoute, c'est là qu'il faut que tu sois. C'est là qu'il faut que tu sois. Ne t'en éloigne pas. Et j'aimerais nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, qu'on le veuille ou non, il y a des champs, il y a des terrains, appelez ça comme vous voulez, qui seront toujours pour notre vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quels que soient les événements, il y a toujours des champs, des terrains qui seront des terrains de bénédiction et duquel il ne faut pas sortir. Même si ça tangue, même si ça bouge, même si il y a des tempêtes, même s'il y a des orages, même si etc. Quoi qu'il se passe, il y a des terrains duquel il ne faut pas sortir. Ne va pas glaner dans un autre champ. N'y va pas. Et peut-être ce matin, le Seigneur voudrait peut-être nous rappeler ces choses. Ce que je vais dire là, ce que je vais partager pendant quelques minutes, c'est des choses que vous savez, que nous savons, mais que le Seigneur veut peut-être nous rappeler parce que ça devient de plus en plus difficile. Il y a tellement de situations, de circonstances qui sont là pour nous embrouiller. Et que quelque part, il faut entendre la voix du Saint-Esprit qui nous dit, mais ne va pas glaner ailleurs. Ne va pas glaner ailleurs. Premier de ces champs, premier de ces terrains, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Ça, c'est un champ, un terrain sur lequel il nous faut à tout prix demeurer et ne pas sortir. Parce que dès qu'on sort de là, peut-être au premier abord, ça va sembler être agréable, ça va peut-être sembler être plaisant, peut-être même répondre à quelques besoins ou quelques aspirations, mais on va perdre la bénédiction. Demandez à Saül. Vous connaissez l'histoire, hein, Samuel chapitre 13. Il avait reçu des directives précises du prophète Samuel, et puis bon, quand celui-ci va finir par arriver, qu'il va dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il va dire « Lorsque j'ai vu que les Philistins étaient arrivés, que le peuple se dispersait loin de moi et que toi tu n'y arrivais pas, ben, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. » Je crois qu'encore aujourd'hui, parfois, si on ne veille pas, on peut faire des choses qu'on ne devrait pas. Je parle de croyants là. Hein. On peut faire des choses qu'on ne devrait pas. En tout cas, quand je dis qu'on ne devrait pas, dans le sens biblique de ce que la parole dit, quoi. Parce que sinon, on va sortir du champ de la bénédiction, on va sortir du terrain où Dieu pourra nous bénir, et ça va être pire. Alors pour Saül, vous vous rappelez ce que quand même il va lui être dit, à partir de là, il va lui dire, tu as agi en insensé. Et il est sorti du plan de Dieu à ce moment-là. Il est sorti du plan de Dieu à ce moment-là. Et croyez-moi, tout est mis aujourd'hui pour nous faire sortir de ce champ-là. Mais non, écoute, aujourd'hui les choses ont changé, c'est plus pareil, etc., etc. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Mais ne sortons pas de ce champ-là. N'allons pas glaner ailleurs. N'allons pas glaner ailleurs. Je pourrais parler de la crainte de Dieu. Ça aussi, c'est un champ duquel il ne faut pas sortir, la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur, hein, mais ce désir de l'honorer, voyez. Bien sûr, chacun fait comme il veut, mais peut-être ce matin, ça nous dit, ne sors pas de ce cadre-là, parce que c'est un cadre béni. C'est un cadre béni, avoir la crainte de Dieu. Et j'y reviens souvent, mais parce que cette histoire, elle est tellement, tellement actuelle. Joseph n'a pas voulu sortir de ce champ-là. Et même devant toutes les tentations, devant tout ce qui lui était proposé, tout ce qui semblait bien, tout ce qui semblait beau, tout ce qui semblait peut-être arranger sa situation, il n'a pas voulu sortir de ce champ. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Il n'a pas voulu sortir de ce champ. Et quand on voit comment ça a fini pour lui, je me dis, mais heureusement qu'il n'est pas sorti de là, parce que ça aurait été pire après. Vous savez, les situations qui semblent arrangeantes au départ, mais qui après se retournent contre vous et c'est pire, hein. Après, pour récupérer, c'est difficile, vous voyez. Vous savez, je l'ai souvent dit, je vais le redire ce matin, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, elle l'aurait jeté à un moment donné comme un vulgaire Kleenex, parce qu'elle aurait eu ce qu'elle voulait, et au bout d'un moment, chut, et ça aurait été pire pour lui après. Ça aurait été pire pour lui. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que vraiment aujourd'hui, voyez ? Et on sort. On sort de ce cadre, de ce champ, là où Dieu pourra nous bénir. Et puis un autre champ aussi où il faut pas en sortir. C'est celui de la communion fraternelle. Eh ouais. Je sais que la communion fraternelle, c'est un sujet difficile, mais quand on regarde quand même ce qui est écrit, c'est quand même là que Dieu envoie la bénédiction. Hein. Psaume 133, c'est quand même là que Dieu envoie la bénédiction. Vous voyez, bien sûr qu'aujourd'hui, peut-être c'est dans la mentalité de bien des gens, on n'a pas besoin de la communion fraternelle, on n'a pas besoin de l'Église. Ouais. Je vais vous dire... Tant mieux pour tout ce qui se passe sur Internet, les cultes par Internet. Si quelque part quelqu'un est malade et ne peut pas se déplacer, je dis c'est bien. C'est très bien. Quand on est malade, je suppose que Bernard, quand il n'a pas pu venir pendant 3 semaines, hein, c'est super. Moi je dis amen, gloire à Dieu. Mais dans ce cadre-là, si c'est pour éviter de. Vous voyez, si c'est pour éviter d'aller dans la communion fraternelle alors qu'on peut y aller, ça c'est autre chose. Ça c'est plus la même chose même. C'est plus la même chose. Vous voyez, et je me rends compte qu'aujourd'hui, des chrétiens solitaires, vous en avez de partout. Vous en avez de plus en plus. Il y a un texte que j'aime beaucoup, regardez, on va l'afficher dans le livre des Actes, au chapitre 28. L'apôtre Paul arrive dans la ville de Rome, on est tout à la fin du livre des Actes. Il dit, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Et regardez le verset 15. De Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, regardez, Paul en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. C'est l'apôtre Paul pourtant, hein ? C'est l'apôtre Paul. Mais quand il a vu les frères, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. De ne pas être tout seul, ça fait du bien. D'avoir des frères et des sœurs qui vous soutiennent, même pas grand-chose, même un mot, même une présence, un sourire, ça fait du bien. On a besoin les uns des autres. Après, on n'a pas tous les mêmes caractères. Vous savez, les brebis, Jésus a pris cette image de la brebis, mais... Les brebis, je ne suis pas un spécialiste, mais de temps en temps, ça se donne des coups de sabot. Je vois que vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça met des coups de sabot. Mais c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le mystère de l'Église, ça nous dépasse. Mais le Seigneur l'a voulu. Il a voulu l'Église. Regardez toutes les églises dans le Nouveau Testament. Mais il n'y en a aucune de parfaite. Il n'y en a aucune de parfaite. Ouais, le frère, la sœur, le pasteur, le truc, le machin. Oui, mais c'est pas une scoop, ça. Hein. On le sait. Hein. On le sait. Mais Dieu a voulu l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est comme ça. Et ne sortons pas de ce champ-là non plus. N'allons pas glaner ailleurs. Voyez. Surtout aujourd'hui. Puis vous en avez un autre, c'est la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est important, la volonté de Dieu. C'est un terrain, c'est un champ duquel il ne faut pas sortir. Pas sortir de là. David, dans le psaume 143, va dire « Enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire, pas à connaître, à faire. » Mais c'est important. Et quand vous lisez l'histoire de David, qui était roi, qui avait remporté des batailles, qui avait quand même l'homme qui avait vaincu Goliath, Mais plusieurs fois dans son histoire, vous lirez dans 2 Samuel, plusieurs fois dans son histoire, qu'est-ce qu'il est dit ? Il consulta l'Éternel, il consulta. C'est répété plusieurs fois. Vous lirez 2 Samuel chapitre 5, vous avez tout un chapitre là où plusieurs fois il est dit « David consulta l'Éternel ». Parce qu'il savait que faire la volonté de Dieu c'était important et que dès qu'on sortait de ce cadre-là, on se mettait en danger. À partir du moment où je sors de ce cadre-là, de ce terrain-là, je me mets en danger. Et je crois que ça, il faut le réaliser. Je pense à un homme comme Moïse qui, à un moment donné, a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais quelque part, il a compris que le plan de Dieu, c'était le meilleur pour sa vie. Et que s'il sortait de ce cadre-là ou s'il ne rentrait pas dans ce cadre-là, mais il allait passer à côté. Et ce matin, j'aimerais nous encourager les uns les autres. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Seigneur, je veux rester dans le cadre de ta volonté. Parce que je sais que si je commence à sortir un peu de ce cadre-là, et c'est vite fait, hein, c'est très vite fait. Il y a tellement de choses pour nous attirer loin du Seigneur, loin de ses plans, des choses qui semblent tellement attrayantes, belles. Ne va pas dans un autre champ. Vous savez, des champs autour, il y en a des tas, des propositions. Seigneur, je veux rester dans le cadre de ta volonté. Parce que si je sors de là, je sais très bien que je me mets en danger. Vous savez, le diable fera tout pour nous faire passer à côté. Hein. N'inquiétez pas. Et peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, serait bon, les uns et les autres, et moi le premier, d'entendre la voix du Seigneur. Peut-être la voix du Saint-Esprit, nous rappeler ces choses que vous savez. Je ne vous apprends rien ce matin. Mais d'entendre ce conseil, va pas glaner dans un autre champ. Commence pas à aller picorer à droite, à gauche, etc. Et commence... Parce qu'on finit par se perdre, on finit par s'égarer, on finit par s'embrouiller, et après on ne retrouve plus notre chemin. Vous savez, quand on commence à s'engager sur des chemins de traverse, le problème c'est qu'au départ, bon, on se dit, bon, si jamais ça ne va pas, hop, je reviendrai, et puis hop, on fait un pas, on tourne à droite, on fait à gauche, on revient, et puis après, mince, comment on fait pour revenir? Je ne me rappelle plus par où je suis passé, et puis on peut plus, c'est difficile de revenir. En tout cas, si on revient, mais alors on s'est fait du mal, on s'est écorché, on s'est... Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur veut nous éviter. C'est ça que le Seigneur veut nous éviter. Peut-être ce matin, le Seigneur veut te rappeler, mon frère, ma sœur, ne sors pas de ces terrains-là que j'ai cités. Ne sors pas de là. Parce que c'est des terrains de bénédiction. Voyez. Et justement, peut-être permettez que je fasse un parallèle avec une autre histoire qui est un peu similaire sur le principe. Où on voit là encore que ça ressort. Vous vous rappelez cette histoire-là, à un moment donné, il y a les fils des prophètes et puis il y a la famine qui est là. Il y a la famine qui est là. Et puis, heureusement, Élisée, l'homme de Dieu, est là. Moi, je bénis le Seigneur parce que même dans les périodes sombres, les périodes de famine, Élisée, qui est l'image du Seigneur, il est là. Il ne dit pas, bon, ben moi, je m'en vais. Là, c'est ça. Ouh, je sens que ça va mal tourner, je m'en vais. Non, non, non. L'homme de Dieu, il est là. D'ailleurs, relisez les histoires d'Élisée, c'est flagrant, quoi. Chaque fois, heureusement qu'il était là. Quand le fer de la hache est parti, il était là. Dans cette histoire-là, on va le lire, 2 Rois chapitre 4, rappelez-vous, verset 38, encore une fois, il était là. Regardez, Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot. Vous avez noté, il y a la famine, mais Élisée dit, mets le grand pot. Il aurait pu dire, écoute, mais trouve le plus petit que t'as, parce que vu qu'il n'y a rien. Non, mets le grand pot. C'est toujours une affaire de foi. Hein. Mets le grand pot. Voyez. Et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. Regardez verset 39. L'un d'eux, parce qu'il y en a toujours un qu'il faut qu'il sorte de l'ordinaire, hein, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il y trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Regardez verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Tu peux me remettre le verset d'avant ? Voilà. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe là. La famine est là. Il n'y a plus rien à manger. Vous savez, en général, quand tel est le cas, on prend ce qu'on trouve. Hein. Mais quand on réfléchit sur le plan spirituel, quand même, ça doit nous faire réfléchir. On est dans des temps de sécheresse spirituelle. Et quand on est dans des temps de sécheresse spirituelle, la tentation, c'est de prendre tout ce qu'on trouve, tout ce qui passe. Hein. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il sort dans les champs, et puis il va voir des herbes, et puis surtout il va voir des coloquintes sauvages. Et il va en prendre plein son vêtement. Alors j'avais fait une recherche, j'avais regardé ces coloquintes sauvages, ça ressemble à des espèces de concombres là. un peu de toutes les formes, une espèce de concombre avec des belles couleurs, des belles formes. Et visuellement, c'est très, comment dire, c'est très attirant. Voyez. Donc lui, il a vu ça, bon, y a rien à manger, puis lui voit ses trucs. Qu'est-ce qu'il fait là? Il en met plein son vêtement. Et il ramène ça. Le problème, c'est que une fois qu'ils ont goûté ça, la mort était dans le pot, quoi. Voyez. Et ça, c'est, on pourrait dire, mais faisons bien attention parce que on peut vite s'empoisonner. Hein. Et la mort, elle est dans le pot, dans nos cœurs, dans nos vies. Voyez. Et il y a un petit détail. Alors, je vais le manier avec précaution parce que je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais je crois quand même que c'est important de le souligner. Quand il est allé chercher ses coloquintes, il pensait bien faire. Évidemment, il pensait bien faire. Il n'était pas mal intentionné. Mais regardez, il y a un détail là. Car on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Moi, je ne sais pas, mais en principe, en général, moi, un truc que je ne connais pas, je vais éviter d'y croquer et mettre la dent dedans. J'aurais trop peur. On ne les connaissait pas. Je réfléchissais un petit peu à ça. Je me disais, aïe, 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 les nouveautés. Hein. Les nouveautés. Alors, comprenons-nous bien. Quand je parle de nouveautés, je ne parle pas du fond. Mais hein, je ne parle pas du fond. Je parle du fond, mais pas de la forme, pardon. Je parle du fond, mais pas de la forme. Je me suis embrouillé. Vous avez compris, c'est bien. Hein? Je vais prendre cette image. Hein? Je crois que la grâce de Dieu, la parole de Dieu, tout ça, c'est un cadeau merveilleux, extraordinaire. Et ça, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Après, il y a l'emballage du cadeau. Après, l'emballage, le plus important, c'est le cadeau à l'intérieur. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut... Ouais, mais merci Seigneur, si on peut faire différemment de ce qui a été fait il y a 20 ans ou 30 ans, etc. Pas de souci, pas de souci. Du moment que le fond ne change pas, que le message reste le même, que la parole elle est toujours honorée, que la parole est toujours mise à l'honneur. Vous voyez ? Ça, c'est comme une... Je vais prendre cette image-là aussi d'une maison. Vous achetez une maison qui vous plaît, c'est la maison de vos rêves, c'est ce que vous voulez, sauf que la maison, elle a 30 ou 40 ans. Et puis vous arrivez... Et puis la maison, c'est ce que vous vouliez, quoi. Le nombre de pièces, trucs, machin, tout ça. Sauf que dans la maison, il y a des tapisseries d'il y a 30 ou 40 ans. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les tapisseries d'il y a 30 ou 40 ans, c'est, vous savez, ça avait les gros motifs, là, les gros trucs de toutes les couleurs, là. Quand vous rentrez, vous faites... presque vous avez peur, quoi. C'est des gros motifs, tout ça. Bon, s'il y en a qui aiment ça, excusez-moi, je ne me moque pas de vous. Hein. Mais... Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, on va les tapisser, on va mettre un coup de blanc, ou de, pas de blanc, mais autre chose, voyez, pour essayer de mettre un peu, voyez. Mais la maison, elle est toujours là, elle ne change pas. On a juste changé les tapisseries, tout ça, voyez. Ben, c'est un peu ça l'image, voyez. Moi, je n'ai rien contre le fait. Bon, aujourd'hui, merci Seigneur, regardez, on a un vidéoprojecteur, c'est super. Moi, je me souviens à l'époque, on arrivait tous avec les cantiques, vous voyez. Et puis après, c'était avec les feuilles, là, le rétroprojecteur. Les feuilles, ça partait dans tous les sens. Bon, mais maintenant, là, ça, ben, gloire à Dieu, ça améliore les choses. Aujourd'hui, on fait des choses qui ne se faisaient pas il y a 30 ou 40 ans. Hein. Dans certains endroits, on fait des friperies, d'autres endroits, on fait des banques alimentaires, tout ça. Le but, mais finalement, on fait comme faisait Jésus. Jésus, il n'a jamais fait de la même façon. À un, ben, il a mis de la boue sur les yeux, à l'autre, il a mis de la salive sur la langue. Il a jamais fait. Ben, gloire à Dieu. L'important, c'est le fond. Le fond, il ne faut pas qu'il change. Parce que c'est le message. C'est le plus important. Après, la forme, bien sûr, dans les limites, hein, voilà, je crois que c'est important. Et on a besoin, une fois qu'on a réalisé ça, une fois qu'on a dit ça, après, de ne pas sortir dans notre champ. Ne va pas glaner dans notre champ. Vous voyez, et ça, c'est important. Dans l'histoire, et vous la connaissez, l'homme de Dieu, il est arrivé, pour vous rappeler l'histoire, sinon vous lirez la suite, hein, il est intervenu. Et puis il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Mais je crois que c'est là pour nous aider et dire Seigneur, aide-moi à être vigilant. Voilà. Hein, il ne s'agit pas de tout rejeter. Mais Seigneur, donne-nous du discernement, de l'intelligence, pour que vraiment, Seigneur, je reste dans le cadre de là où tu me béniras. Voilà, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Hein, c'est important. D'autant plus, je veux terminer, je ne veux pas être long, que sans tomber dans toutes sortes d'excès. Moi, il y a un verset que je voudrais laisser sur votre cœur en terminant, que vous connaissez. C'est une parole de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 où il est dit ceci: toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure. Vous voyez, c'est le même conseil que finalement que va donner Boaz là. Hein? Ne va pas glaner dans un autre champ. Et Paul dit avec d'autres mots à Timothée: demeure dans les choses que tu as apprises, reste là. Vous voyez, commence pas à partir un peu là-bas, toi. Vous voyez, non, demeure dans les choses que tu as apprises. Vous voyez, ne t'en éloigne pas. Si Paul dit ça à Timothée, c'est que déjà à l'époque, il aurait pu, vous voyez, partir un peu. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il dirait Paul aujourd'hui? Mamma mia, qu'est-ce qu'il, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Hein, vous voyez. Mais imaginez, et je reviens, je finirai par là. Ruth, je reviens à Ruth. Je reviens à Ruth. Elle a écouté le conseil. Elle a écouté le conseil. Elle est restée dans le champ. Elle n'est pas partie. Et on n'a pas lu la suite. Et même les chapitres précédents, je vous encourage à le lire. Mais résultat des comptes, cette femme qui était étrangère, vous la retrouvez dans la lignée de Jésus. Une Moabite, une étrangère. Quand, moi, chaque fois que je lis la généalogie de Jésus, la lignée de Jésus, elle a participé à la venue de Jésus. Elle s'en est pas rendue compte. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, elle a écouté le conseil. Un simple conseil. On n'imagine pas toutes les répercussions, les conséquences que ça peut avoir dans nos vies quand, quelque part, je dis, ok Seigneur, moi je ne veux pas aller glaner n'importe quoi, n'importe où, mais je veux rester dans le cadre de ce qui te permettra toujours de me bénir. Je veux rester dans ce cadre-là. Voyez. Je termine en disant qu'un conseil, on le prend ou on le laisse. Quand Boaz a dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, hein, elle n'a pas dû me quitter toi, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais comme je veux, c'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Ouais, non, elle n'a pas. Elle a écouté le conseil. Ça m'a fait penser à un autre homme, et je termine par là, qui lui, à un moment donné, a gâché sa vie parce qu'il n'a pas écouté un conseil. C'était Roboam, le fils de Salomon. Il n'a pas voulu écouter le conseil des vieillards. Il n'a pas voulu. Il a écouté le conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui ont fait pression sur lui un peu. Hein, et puis, voilà, par orgueil, par suffisance. Et vous connaissez l'histoire de Roboam, vous la lirez. Ça a été terrible. Lui, le fils de roi, il a fini misérablement parce qu'il n'a pas voulu écouter le conseil. Ce matin, je veux simplement laisser ce conseil sur notre cœur. Vous le savez, ce que je viens de dire. Vous le savez, mais je crois que de temps à autre, il faut rappeler ces choses. Je comprends pourquoi Paul disait « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Et ce qu'on vient de voir ce matin, c'est salutaire. C'est salutaire pour nos vies. N'allons pas glaner dans un autre champ. Je sais bien que parler, reparler et revenir sur l'obéissance à Dieu, sa parole, la crainte de Dieu, la communion fraternelle, la volonté de Dieu, oui, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est gage de salut. Ça va me garder près de lui. Ça va me garder dans sa main. Et finalement, n'est-ce pas ce que nous voulons? C'est David qui disait dans le psaume 31, si je ne me trompe pas, « Mes destinées sont dans tes mains. » Et moi, je veux rester dans les mains du Seigneur. Je ne veux pas aller glaner dans un autre champ, dans un autre terrain. Je veux rester sur le terrain où je sais que Dieu me bénira. Alors que Dieu nous aide. Si peut-être ce matin, on est un peu là, un peu freestyle, voyez, un peu, voyez, les chrétiens freestyle. On aime bien jouer avec les lignes. Voyez, il y a les joueurs de tennis, ils aiment jouer près des lignes. Ah, quand ça passe, c'est beau. Hein. Sauf que quand c'est dehors, quoi. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Attention, à force de jouer avec le feu, un jour on finit par se brûler. Alors j'aimerais nous encourager et que ce conseil de Boaz, eh bien, il puisse toujours être nôtre et dire « Seigneur, ok, je veux le garder comme Ruth a su le faire et regarder sa destinée. » Alors que Dieu nous aide, les uns les autres, et que vraiment on puisse continuer à marcher jusqu'au bout fidèlement avec lui. Alléluia. Seigneur, encore ce matin, merci pour ces choses, Seigneur, que tu nous rappelles, que nous savons, que nous connaissons, mais tu les remets devant nos yeux, tu les remets devant les miens, pour que vraiment tu nous aides, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, et Seigneur, aide-nous à avoir les yeux ouverts, Donne-nous du discernement, donne-nous de l'intelligence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et j'ai besoin de toi. Parce que ce que je veux, c'est un jour être avec toi dans la gloire, Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.